Bras zéro, brassage radio.
Quatrième et dernier épisode de Bras zéro, j'aime lire. Oui, c'est vrai, on s'attarde. Mais on ne s'endort pas. Avec la force des propos du Placard Brûle, bibliothèque queer autogérée toulousaine, et ceux des éditions Terrasse ce soir. Bon appétit à vos oreilles, si elles ont faim d'entendre pourquoi tout péter du milieu intello-bourgeois et réinventer, s'approprier le milieu de l'écriture, des savoirs, de faire mémoire. On finira avec une auteure qui nous lit sa soif d'écrire. Bonne écoute.
Pourquoi on fait ça? Bah parce qu'il y a besoin en vrai, et parce que ça nous plaît aussi je pense.
En fait on a besoin, pour nous organiser, d'espaces qui avant existaient de rencontres intellectuelles. Et qui soient pas des micro-mondes ou des entre-soins, qui soient des espaces populaires.
Bah il y a besoin d'avoir des temps où on réfléchit, où on discute, où on confronte nos idées, où on partage nos vécus. Où...
Et que ça évite justement de placer le militantisme dans... comme on disait tout à l'heure, en fait, dans des circuits commerciaux, finalement, où la finalité ne serait que exploiter un certain public LGBT.
Et c'est aussi un espace, je sais pas, je me dis qu'on peut être surpris, quoi. J'ai pas plein d'espaces dans ma vie comme ça, où là, peuvent arriver des gens par hasard, ou qu'on pensait pas rencontrer, et qu'on finit par rencontrer. Je trouve que c'est des parties par un espace où ça, c'est possible.
Et pour moi, ouvrir une bibliothèque avec sa petite routine, en fait, hein, donc permanence, un peu d'activité, c'est une façon d'envisager le militantisme à beaucoup plus longue échelle.
On est construit par les bouquins aussi, tu vois. Faut pas se mentir. Du coup, pourquoi l'abandonner à une ou deux maisons un peu classe politiquement, ou pourquoi? On est plein à écrire et à avoir ce savoir-faire-là, tu vois.
Moi, j'ai un peu découvert les écrits militants tout seul dans mon coin, par le biais des brochures notamment. Et je crois en cet objet politique de la brochure.
Bah, l'outil fanzine, déjà, c'est utile pour nous parce qu'on s'auto-organise, on prend la parole déjà.
Et on prend la place.
On prend la place.
Je pense que la première brochure que j'ai faite, ça s'appelait « Le plastique, c'est fantastique ». Et c'était de l'information sur la réduction des risques sexuels pour les lesbiennes et les bi.
Je me suis dit que j'avais envie de prendre le défi d'un peu les faire circuler largement et de faire découvrir un peu ces écrits à des personnes qui n'y ont pas forcément accès.
Mais ça vient plus loin, c'est genre qui a les relations, qui a la possibilité d'aller jusqu'au point, d'aller en thèse. Et même si tu écris des romans, bah, il faut que, voilà, que tu aies les contacts et tout pour pouvoir être publié, parce que sinon ça marche pas.
On est porté par l'envie de construire quelque chose de collectif, de participer à notre échelle à quelque chose qui soit collectif, de porter des voix de personnes qui parfois accèdent difficilement à l'édition.
C'est des mots qui résonnent fort pour nous, de prendre la place. C'est de prendre la place qu'on refuse de nous donner, qu'on refuse de nous laisser dans le quotidien, dans les transports en commun, partout. Et ben là, on va la prendre par de l'édition libre.
Le livre, il y a quand même une approche qui est différente, beaucoup plus petite, qui est possible. Il y a une indépendance aussi qui nous est chère. Il y a le format, le fait que ça peut circuler, le fait que les personnes se l'approprient comme elles le souhaitent, le fait que ça se démultiplie.
Bras zéro, ça se lit pas.
Bras zéro, ça s'écoute.
Moi, je m'appelle Luc et du coup, on collabore à une maison d'édition qui s'appelle Terrasse Édition, qu'on a créée en 2017. Non, 2018, 2019 plutôt. Et les premiers bouquins sont sortis à la toute fin 2019, début 2020. On s'est retrouvés avec une personne notamment, après on est plein de collaborateurs, collaboratrices, mais ça, peut-être on en parlera après dans comment on veut fonctionner. Mais avec cette personne, on avait collaboré avant à une autre maison d'édition qui existe encore et avec qui on a des très, très bons rapports. Et en fait, c'est de là que vient un peu l'espèce d'apprentissage sur le tas de comment transformer l'envie de, d'être présent là où il y a des brochures, des quimbous et de la traduction, en vrai c'était ça, à un truc un peu plus chiadé et un peu plus classe de vas-y, il faut être aussi présent dans cette espèce de monde du livre comme il existe en France, en Europe, dans le monde. Parce que c'est des espaces qu'on ne peut pas complètement abandonner aux grands trucs. Et parce que je pense qu'on est tous aussi plus ou moins formatés, construits dans un rapport au bouquin qu'il faut assumer, tu vois. Qui est OK, tout ce qu'on a réappris après sur faire des brochures, faire du do it ourself. Mais qu'on est aussi hyper structuré par les bouquins, tu vois. Les beaux livres, les livres hyper intéressants, les trucs qui durent depuis des années, les trucs qui mourront jamais. Et c'est quand même bien présent dans l'objet livre. Et voilà, du coup, on s'est retrouvé là-dessus. Et après, Terrasse, c'est un espèce d'objet, truc stratégique de dire là qui on est, dans les mondes où on veut être, qu'on pense hyper politique. Ben, en fait, c'est stratégique. Là, on a les forces pour être là. Mais c'est hyper pragmatique. Dire si demain, on pense que dans la société française, qui va être ce qu'elle va être, par exemple, après la semaine prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 6 mois, bah peut-être on se sentira actif, utile et à la bonne place, je sais pas, ailleurs. Et comme on l'était avant de se dire, vas-y, là on a les privilèges, la place, l'espace, le temps, un peu les moyens pour se lancer là-dedans. Mais comme les années d'avant, dans les milieux où on s'est rencontrés, c'était plus occuper des bâtiments ou créer des liens de solidarité concrètes avec des gens, des familles, et à d'autres moments de vie, tu vois, des trucs comme ça.
J'allais demander comment est-ce que vous faites choisir ou est-ce que vous choisissez
Ouais. Oui, ça vient tout de là, en fait. C'est vraiment ce truc. On a cet endroit-là parce qu'on veut se placer dans des mondes sociaux et politiques où on sait pourquoi on va à ces mondes-là, d'où on vient et où on veut se placer avec quels gens, quels alliés, et le truc. Et du coup, ça crée des vraies relations de vie, ou de camaraderie, ou deux. Et à cet endroit-là, c'est là où on a besoin de fixer des mots, on a besoin de théorisation, on a besoin de que toutes ces paroles-là, elles sortent. Et du coup, le bouquin, c'est quand même avec d'autres médiums, c'est quand même un truc top. Enfin, c'est trop important. Et du coup, tous les livres, ils viennent de ces rencontres-là. Terra, c'est un espèce d'hommage très, très précis à un temps littéraire et intellectuel précis dans lequel nous, on se retrouve beaucoup, qui est lié en partie à l'Algérie. Mais ça, après, on peut développer dessus. Mais Terrasse, en vrai, on a choisi ça hyper pour le délire et pour l'hommage à ce temps-là historique. Mais en vrai, à y penser, c'est aussi... Symboliquement, c'est aussi... Bon, vas-y, non, en vrai, ça fait trop Terrasse architecte. Mais en vrai, c'est penser ce truc-là comme une espèce de grande famille où, en fait, je sais pas, c'est l'expression littéraire du croisement des mondes où on veut être. Un truc hyper, hyper actif. Pas hyper actif dans on a trop d'énergie, mais hyper actif dans en fait on veut pas lâcher, on peut pas lâcher le monde et la vie comme elle est, il faut qu'on active. Et du coup, là on active, on se retrouve avec des gens, on crée des liens de camaraderie, de hyper amitié, de soutien, de solidarité. Et à cet endroit-là, qui existe dans nos vraies vies, comme plein de gens, et bah pourquoi on met pas un truc en plus auquel on peut avoir accès de façon pas si compliquée de il faut qu'on garde les traces de ça. Il faut qu'on fasse mémoire de ces intersections de mondes, de gens. Faisons trace, comme ça on se les passe, comme ça on se les traduit, et comme ça reste, et comme ça on fera ce qu'on doit toujours faire politiquement, c'est-à-dire s'inspirer de ce qui s'est fait pour avancer plus vite, par faire les mêmes erreurs. Tout un processus hyper... pas si compliqué en fait, hyper politique, de dire bon, il faut qu'on pense la vie comme ça, parce que sinon on n'a pas le choix, on se fait niquer de toute façon.
Pas très longtemps en fait que je fais partie du placard brûle on peut faire un peu un historique rapide de ce que c'était le placard brûle et tout. Dans mes souvenirs, ça s'est ouvert au TDB, qui était un squat transpédéguine qui a ouvert en 2009. Je crois que la bibliothèque, le placard brûle, elle a ouvert je crois en 2010 ou 2011, un truc comme ça. Et c'est resté au trou de balle pendant, jusqu'à ce que le TDB soit fini, fermé, expulsé. Du coup, je crois jusqu'en 2018, un truc comme ça peut-être. 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement quelle année. Et après, il a été déménagé à l'Obs, mais pendant un temps, en fait, il ne bougeait pas de l'Obs. Enfin, il était genre dans les cartons, etc. Et en 2019, il y a eu une réouverture en janvier, je crois que c'était, avec des personnes complètement différentes des personnes qui sont occupées au trou de balle. Et voilà. Et par exemple, genre les discussions qu'on fait actuellement, un mardi sur deux ou tous les mardis, à l'époque, quand c'était au TDB, ça se faisait pas du tout. Enfin, ou plus ponctuellement, en tout cas. Et là, vraiment, l'idée, c'est de faire ça, de manière régulière. Ouais. Il y a un fond de livres qui donc date du début du TDB, du début du placard brûl. Et nous, on est en train d'augmenter un petit peu le fond pour qu'il y ait un peu des trucs plus actuels, etc., vu que ça a quand même 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a la bibliothèque, donc une partie des livres qui sont libres à emprunter, à ramener quand on veut, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir de carte d'adhésion pour emprunter. Et ensuite, il y a des revues qui sont aussi à consulter sur place et pas mal de brochures qui sont à emporter en prix libre principalement. On a comme idée de rajouter aussi une sorte d'espace où les gens ils pourraient télécharger des émissions de radio et des trucs comme ça. On n'a pas encore mis ça au point, mais ça reste un peu dans nos têtes là, de rendre accessible en fait, des émissions de radio, des films, des documentaires, enfin voilà. En plus de l'espace placard brûle, bibliothèque, brochure, etc., du coup, il y a des discussions sur des thèmes assez larges. Un peu tout ce qu'on a envie de... Enfin, chaque mois, en fait, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain ? C'est quoi les discussions qu'on a envie de faire et tout ? C'est quoi les brochures qui sont sorties récemment ou quoi ? Ou les trucs les sujets sur lesquels on a envie de parler ? Et à chaque fois, on se base sur des bouts de brochures ou des bouts de livres... ou même des émissions de radio aussi, une fois. Celle qu'on a fait sur l'héritage, par exemple, c'était sur une émission de radio qui avait été faite et on a juste passé quelques bouts et ensuite on discutait. Voilà, il y a une ou deux personnes qui proposent à la team du Placard Brûle de faire cette discussion-là. Et souvent, on a deux, trois brochures et juste, on se pose, on dit, est-ce que là, on a envie de discuter directement du thème ? Qu'est-ce que ça vous évoque et tout. Et si des fois on voit que la discussion est galère un peu, on se pose et on lit des parties des brochures et voilà. Mais il n'y a pas une personne qui drive la discussion. Des fois, quand on voit qu'on est un peu nombreuses, à ce moment-là, il peut même y avoir de la part des participants une volonté qu'on fasse des petits groupes et tout. Mais voilà quoi. Plutôt, et pareil, avec les trucs de Covid, est-ce qu'on met le masque, est-ce qu'on ne le met pas, etc. Pareil. Un truc qui se discute et
Tu peux donner un exemple hyper concret de l'histoire d'un bouquin que vous avez édité ?
De plusieurs, parce que ce que tu disais, c'est intéressant de comment on choisit. Et je pense en fait, on choisit dans les mondes qui sont autour de nous. Et du coup, par exemple, on a une collection qui est en lien avec l'Algérie, mais qui est une Algérie historico-politique qui existe plus trop de façon concrète, mais qui existe en vrai de façon dans les mémoires et dans ce qui doit être transmis en héritage hyper forte, et en Algérie, et en France, et dans la Méditerranée. Et par exemple, des bouquins, c'est pratiquement que des gens qui sont morts. Okay. Et du coup, on a fait plein de bouquins, c'est des gens qui étaient morts. Du coup, on ne les connaît pas. Et il faut redonner voix à ces gens-là. Et par exemple, le premier livre, c'est un bouquin d'une poétesse algérienne qui s'appelle Anna Greki. Et le livre, il est juste né que... moi, par exemple, et en lien avec des gens en Algérie, ça fait des années que cette personne-là, elle est là pour ce qu'elle représente en termes de beauté de poésie et aussi de positionnement d'une meuf européenne dans un contexte anticolonial puis décolonial. Elle a pas eu le time, elle est allée là où elle allait. Elle s'est engagée corps et âme, elle a écrit, elle est restée en Algérie. Elle a pris position pour l'indépendance, elle a eu un truc, tu vois. Et du coup, quand tu commences en tant que... Je pense en tant que blanc et dans des liens avec l'Algérie, ça devient vite une figure, dès que tu creuses un petit peu. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait ? C'est pas possible de juste la laisser dans un rayon de bibliothèque pourri où personne ne va la lire, alors qu'elle est si inspirante, tu vois. Et c'est venu que on a des camarades et des amis très chers là-bas qui ont le même rapport à cette personne, mais en Algérie, et qui traduisent ça. Tu vois, mais en fait, c'est à la jonction de ce truc-là qu'on essaie de reconstruire, de dire qu'il y a trop de liens entre l'Algérie et la France pour le laisser au chien de la casse qui essaie de récupérer les mémoires ou d'être toujours derrière, d'être toujours à la bourre de réalités matérielles qui nous dépassent, dans lesquelles il faut être, mais qui nous dépassent, tu vois. Je sais pas, tous les gens qui traversent, qu'il faut être là en solidarité, mais il y a aussi d'autres liens qui existent. Et du coup, dans ce lien-là avec cette personne, on dit, vas-y, on traduit. Il faut qu'un agrégé qui, elle existe entre la France et l'Algérie, en arabe, en français, en langue algérienne, et vas-y. Et du coup, le livre se fait comme ça, de façon assez... avec du taf, mais de façon assez simple. Mais je sais pas, il y a d'autres livres comme... le livre de Fatou Wes, qui est né de... Je parle vraiment à l'endroit de partage de monde avec cette personne qu'on connaît, avec laquelle on partage des bouts de vie, des bouts de monde, des bouts, et à un moment donné de dire, mais en fait, toi, t'écris, depuis tout le temps t'écris. Et tu sais écrire et tu sais faire que tes écrits passent à la radio, dans plein de trucs différents, des brochures, je sais pas si la personne, elle a écrit partout. Et de dire, mais en fait, tout ça, pourquoi on ne le rend pas encore plus disponible? Pourquoi cette écriture de l'intime est hyper politique en même temps? Si toi, tu te sens... Vas-y, viens, on fait un truc collectif qui accompagne ça. Et du coup, ça fait sens, parce que c'est pas toi qui veux devenir la nouvelle poétesse noire trop la classe de France. En fait, elle s'en fout. Par contre, si on crée un truc collectif ensemble, de dire, bah, ça va s'insérer avec d'autres écrits contemporains, de gens qui sont là, c'est pas ton nom. Tu vois, c'est pas, le but, c'est pas que tu sois la nouvelle star. C'est juste que tes écrits sont en écho de... des autres bouquins de terrasse. Et ça fait juste sens, tu vois. Et les autres bouquins, c'est comme ça. Il y a des autres bouquins d'un cycle qu'on a appelé cycle d'écriture contemporaine, c'est la même chose. C'est des gens qui sont autour de nous. En fait, on est plein et plein, plein, plein à écrire. Et on n'écrit pas pour être publié, pour se faire mousser ou pour être publié chez Gallimard ou chez je sais pas qui. On s'en fout. Et on sait très bien que quand il faut écrire un texte, s'il y a une brochure, s'il y a des trucs de camarades, on y va, on le fait, on ne signe pas, c'est des textes collectifs, on sait faire. Mais on a aussi des écrits plus ou moins intimes ou des écrits qui nous tiennent à cœur. Et en fait, pourquoi on ne se dit pas tous ensemble, vas-y, en fait, ces traces-là de vie, c'est pas anodin. Mais c'est pas anodin si elles sont ensemble, parce qu'il y a un truc de collectif qui fait que vous faut pas vous méprendre, c'est pas pour devenir écrivain ou écrivain. C'est juste parce qu'on a une place, on a une voix dans cette société-là, on fait des trucs... des trucs politiques. Il y a des gens qui ont moins la voix que d'autres. Et puis de toute façon, on n'ira pas là où c'est pour faire des cocktails ou... Du coup, allons-y ensemble à un autre endroit. Mais qui n'est pas forcément un truc de... On va jamais parler ou il y a trois personnes qui vont nous lire ou on va faire... Non, un truc de... On a aussi cette place à prendre dans le monde intellectuel ou littéraire qui est aussi le nôtre dans lequel on se construit.
Le rap un sport d'esclaves qui porte l'espoir d'une jeunesse oubliée. On fait du street art sur les bancs de l'histoire. Nos barres d'immeubles font partie des meubles. Un jour l'hexagone se souviendra qu'on est la partie noble. Un rappeur qui meurt, une biblio qui brûle. Je suis membre d'un gang et d'un club de lecture. Peu taciturne et la langue du bitume. Les tatouages à l'encre racontent le vécu. Pas d'œuvre rappée, c'est pas du rappelé. Un poème si sera, c'est dur à s'en rappeler. Je suis pas républicain, je suis démocrate. Jusqu'à ce qu'elle m'aime la France, je vais la démographier. Mon brouillon, c'est ton prix concours. Au FNJ, je donne des cours de langue. On fait dans le son et dans les discours. Comme le nègre de François Hollande. Ça te rend heureux d'entendre mes chansons tristes. On vit la torture sous anesthésie. Ça me rendra pas plus politique si je kick sur les beats de Pierre Sarkozy. Goûte au préau. On vit en vase clos. Les autres sont des tricycles au salon de l'auto. Je suis donné pour mort depuis l'époque Mitterrand. Deviens jeune vétéran aux pages roses du Tico. Ils possèdent la musique, nous la faisons. Et j'envoie mes lyrics dans l'inframonde. Mais Agoun des momifies Louis Aragon. C'est du punk noir, proteste, sombre. Un frappasse dans la berline, quand la rue transporte les litres. Une grenade dans la playlist, pro de la prose, on est l'élite. Musique.
écoute ancien, bouffard de papier, prêcheur à capuche. Ce soir je suis sans l'enseigne, je rabouge les papiers, je prêche mes convaincus. Ouais, je m'ai convaincu. Ça vient pour s'ambiancer. Chez nous les seuls petits qui nous font danser, on le carnoncier. Musique argotière, prêtre des paliers, pasteur des prévenus. Ce soir je suis sans l'enseigne, je rabouge les papiers, je prêche mes convaincus.
Pourquoi on fait ça? Bah parce qu'il y a besoin en vrai, et parce que ça nous plaît aussi je pense. Et il y a besoin d'avoir des temps où on réfléchit, où on discute, où on confronte nos idées, où on partage nos vécus, où on va un peu plus loin que juste des discussions très pratico-pratiques, ou qui vont même aussi sur des trucs plus théoriques et tout, mais qui sont assez souvent limités dans le temps. Là on prend 3 heures et ça peut déborder en fait même plus après dans la soirée. Et déjà 3 heures, c'est assez chouette pour aller au fond d'un sujet, et assez souvent ça fait du bien en vrai. Enfin, à la fois à nous et à la fois aux personnes qui participent en vrai. Enfin voilà quoi. Je sais que dans le collectif il y a des gens qui lisent pas trop, et il y en a d'autres qui lisent pas trop de livres, et il y en a d'autres qui lisent beaucoup de livres et pas trop de brochures. Et du coup on est un peu, c'est un mix de ces deux affinités un peu. Et après moi j'ai l'impression que les gens qui sont venus aux discussions étaient quand même assez confort avec le fait de lire. Mais c'est vrai que c'est, peut-être on pourrait faire une discussion sur c'est quoi notre rapport à l'écrit, se raconter des histoires, comment c'est important pour nous ou pas, même le rapport à la fiction et aux théoriques. Enfin, des fois on fait vraiment l'opposition entre ces deux trucs là et machin, alors qu'en vrai genre lire des romans et des contes et des nouvelles, des fois c'est tellement tellement nécessaire et important, et ça fait du bien et ça fait réfléchir sur des trucs des fois plus qu'un gros livre très théorique sur je sais pas telle histoire de telle lutte à tel moment. Enfin, moi j'ai l'impression que ce qui parle le plus c'est ce qui est déjà un peu connu en livre. J'ai plus de visibilité sur ce qui est pris en livre que ce qui est pris en brochure. Mais j'ai l'impression que ce qui part c'est des choses qui sont déjà pas mal connues, qu'ont eu un peu de publicité ou je sais pas quoi, et où les gens les empruntent dans ce sens là quoi. Enfin je sais pas, le bouquin Afrofemme par exemple qui est sorti sur Syleps, ou quoi d'autre, Queer Zone par exemple de Boursier, genre plein de petits trucs comme ça. Et sur les brochures en fait je crois que ça dépend pas mal de ce qu'on met en valeur, j'ai l'impression. Et du coup si en fait genre on met en valeur des brochures sur le sujet de la guerre, au moment où on fait la discussion sur la guerre, beaucoup de brochures vont sortir, vont être prises à ce moment-là, et voilà quoi. Et quand on se pointe, parce que oui, quand je faisais le descriptif du Placarbol, j'ai oublié de dire que quand même on se pointe sur différents événements pour tenir un infokiosque et tout. Et là aussi, c'est là où en fait les brochures elles partent le plus, j'ai l'impression. Et là, ça va dépendre aussi de si on les met bien en valeur ou pas, si on a beaucoup ou pas, si c'est des grosses brochures ou pas. Enfin, ouais. Et plutôt, c'est assez varié, en vrai. Ouais.
Faire un bouquin, ça se fait. Je te dis après, ça se fait. Mais le fond, et comment t'articules les deux, c'est ça le plus dur. Mais c'est le plus dur si tu veux le créer ex nihilo. En fait, si dans les autres compartiments de vie, les autres façons de vie, on vit déjà comme ça, c'est déjà là, tu vois. Mais comme là, on se capte, on fait une émission de radio. En fait, il y a des gens... Je sais pas, ils sont passés par des écoles ou quoi. Dans leur tête, pour faire une émission de radio, ça va être la croix et la bannière, parce qu'il faut aller chercher une personne que tu connais pas. Du coup, tu prends contact. Là, il y a une espèce de réseau qui fait que c'est la grande famille élargie, tu vois. Et du coup, c'est comment faire ce fond et la forme qui, pour moi, pourrait être le plus dur. Mais finalement, si c'est au rythme de comment on vit les choses, comment on veut faire des relations, tu vois, intimes, politiques, si on les fait déjà dans la vraie vie, ça vient. Et sinon, non, concrètement, c'est... Faut quoi ? Pour imprimer un beau bouquin comme nous, on essaie de les faire, qu'il soit pas trop moche. Sachant que nous, par exemple, personne se paye. Qu'après, on voit avec... Il y a certaines autrices ou certains auteurs avec qui on verse des droits d'auteur, parce que c'est important. Il y a des fois des traducteurs, des traductrices qui, pareil, on rémunère, mais en vrai, la plupart des gens, on fait nous. Et on fait avec des gens à qui ont envie de faire ça à leur rythme. Du coup, on se paye pas. Du coup, après, il reste à payer l'impression et à rentrer en contact avec un distributeur, un diffuseur qui fait le taf de diffuser en librairie. Et ça, c'est vrai que c'est un truc de d'avoir l'habitude de ces mondes-là, d'avoir l'habitude de pouvoir vendre un produit, entre guillemets, prendre le bon contact et se faire diffuser. Et en vrai, encore en France, il y a des diffuseurs, distributeurs qui sont plutôt un peu classe, en tout cas, qui acceptent de jouer le jeu capitaliste du monde du livre, mais en même temps de porter un peu des trucs politiques. Du coup, quand ça fait la jonction à ce moment-là et qu'ils acceptent de distribuer, après, c'est trouver un petit capital pour imprimer un bouquin. Un bouquin, ça peut s'imprimer pour, je sais pas, 1200, 1500. 1500 euros, ce qui représente un truc, mais qui est en fait dans une organisation collective. Avec toutes les compétences qu'on peut avoir de taper de la thune un peu par là, de faire des faux dossiers par là, de se réapproprier un peu de thune par là, de choper un bout d'héritage par là, de collectiviser de la thune, ça devient plus si énorme. En parlant, tu vois, toujours à la place où on est et qu'on peut faire ça. Mais je pense que comparativement à plein d'organisations collectives où on trouve de la thune pour plein de trucs, ça peut se trouver, tu vois. Après, c'est aussi parce qu'il y a vraiment ces pensées comme, oui, c'est un bout de travail politique, du coup, des fois, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie et on n'a pas envie de se rémunérer. On ne peut pas toucher du blé pour faire ça. Ça pose la question de comment on rémunère des gens qui ont besoin et tout ça, c'est autre chose et on peut le faire. Mais la base, c'est en fait, on ne fait pas ça pour ça. Que ces moments et ces traces politiques-là, elles existent. Et que voilà, si terrasse, ça doit mourir, je sais pas, dans 6 mois, parce que nos vies, elles prennent un virage, ou parce qu'on a vraiment plus la thune, ou parce que la thune, elle doit aller à un truc plus important que faire des livres, ça mourra. Ça renaîtra à un autre endroit, en livre ou en autre chose. Tu vois. Je pense qu'une fois, à partir du moment où on le pense comme ça, ce qui est chiant avec les arts, l'artistouille, ou la création, c'est que il y a tout un truc de valorisation, reconnaissance derrière, qui donne envie. Mais une fois que tu casses ce truc-là, parce que nous, on veut juste exister collectivement. Se dire, en fait, dans les rayons de terrasse, t'as un militant PD algérien qui se retrouve avec un PD argentin des années 2000, en même temps qu'une poétesse algérienne et que Fatouès, ou tu vois, truc qui fait que ces gens-là, dans la vraie vie, si on abolissait tout truc de temps et d'espace, je suis sûr qu'ils se retrouveraient et qu'ils feraient passer du temps ensemble. Du coup, au moins, ils se retrouvent ensemble sur l'étagère et ça fait sens. Et c'est tout, sans en faire des tonnes de plus. Tu vois. Sans se faire mousser ou en faire des tonnes. Juste que ça existe, c'est important. Et puis, si ça fait sortir des voix qui, normalement, ne sortiraient pas, mais allons-y tant qu'on peut le faire. Tu vois.
Et du coup, ça fait quoi quand... À toi, ça te fait quoi, du coup, quand le bouquin, il sort, quand il est fini?
Non, en vrai, je pense que si on le fait, c'est aussi un truc de... C'est hyper valorisant et ça fait du bien. Mais je pense comme tout acte de création où tu y mets un peu de sens. Et aussi parce que vraiment, tous les quimbous, il y a toujours 3-4 personnes derrière. Même s'il y a des personnes qui y mettent plus de temps ou plus de... Et du coup, tu sais très bien qu'à partir du moment où le bouquin sort, tu l'as dans la main, tu as envie de l'envoyer, de le donner à la personne qui l'a fait. En disant, vas-y, regarde ça, c'est juste un petit bout d'exemple de collectivement, on peut faire des trucs. Et c'est pas pour idéaliser ou, tu vois, enlever les différences d'implication de chacun, chacune en fonction de qui on est. Mais en fait, il y a aussi un vrai truc de collectivement, ça fait ça. Et vite, tu vois, vite le. Je sais pas si attacher, vite le. Tu vois, l'objet qui vient d'un truc collectif, le recollectiviser. Et avec tout ce truc de si on fait gaffe sur la thune et si la thune c'est pour que le livre existe, après le livre il se donne, il se vend pas cher. Qu'est-ce qu'on s'emballera ça après? Tu vois, il n'y a pas de copyright. Tu vois, tiens, prends, tu veux un PDF, prends un PDF. Et ça, c'est tous des trucs qu'on a appris et qu'on apprend tous et toutes, je pense, dans des mondes dans lesquels on est passé. Comme une brochure, comme une belle brochure, tu vois, comme une hyper belle brochure qui rappelle le truc du livre en disant d'où on vient aussi, c'est oui, c'est punk et brochure, et en fait on aime ça, mais on n'est pas obligé d'être, on peut aussi faire punk brochure dans un livre, dans un beau livre, ça se tient. sans prendre la place des brochures et sans faire du Hachette ou du...
Hachette.
Hachette. Déjà, il a trouvé le nom Hachette, le gars.
Bah, à chaque fois qu'on se base sur une brochure ou quoi, pour les discussions, souvent on préfère le lire à voix haute. Enfin, on propose hein, aux gens, mais si c'est de lire des petites parties, en vrai, on se le lit à voix haute. J'ai l'impression que ça va permettre de... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je préfère. J'ai l'impression que ça rentre mieux dans ma tête. Et que, ouais, voilà.
Et toi, il y a une brochure qui t'a marqué dans ton parcours politique à un moment. Une que tu penses qu'il faut qu'elle soit tout le temps là.
Ouais. Un couteau tiré avec l'existant. C'est vraiment ma préférée, franchement, genre, ouais. C'est, ouais. Genre, bon, il y a des... Évidemment, il y a des lacunes hein, dans cette brochure, hein, parce que, bon, par exemple, ça parle de... Enfin, c'est un peu un pamphlet sur... je sais pas, enfin... C'est un pamphlet pour la Révolution, je crois, un peu, pour lutter contre l'existant, etc. Et du coup, il y a quand même plein de parties sur ce truc-là, mais il n'y a quasiment rien sur le racisme et le genre, ce qui est, pour moi, quelque part, un peu un problème, quand même. Mais c'est tellement bien écrit, et ça réfléchit tellement plus... c'est presque philosophique, et ouais, moi, ça m'avait fait vraiment du bien. Et ça m'arrive, à chaque nouveau mouvement, je le relis... Ah, il y a ça, il y a le livre d'Oscangaceros aussi. Enfin voilà, c'est un peu mes deux préférés que je conseille à tout le monde. Enfin voilà.
Brasero fan, fanzine de Brasero. Brasero fanzine.
Après, il y a un truc que nous, auquel on tient beaucoup, c'est que dans chaque livre, on écrit une note d'éditeur, éditrice.
C'est quoi ?
Bah c'est, en fait, c'est pas une intro, c'est comme dire, voilà, nous en tant que terrasse. Pourquoi on a fait ce livre-là ? D'où ça vient ? Une espèce d'exercice politique hyper... c'est pas facile et c'est pas pur, c'est pas parfait, mais une espèce d'exercice de dire là, on a cet espace-là qui va être lu, cette espèce de réflexion mis à plat sur une page blanche, là, où on sait l'effet que ça a fait, bah vas-y, on se met à nu de pourquoi on fait ce livre-là ? Ça vient de quelle connexion ? Pourquoi on veut le faire ? Et pour nous, c'est un truc hyper important. C'est pour ça que il n'y a pas un truc de t'envoyer un manuscrit à Terrasse pour te faire... Parce qu'en fait, on peut pas, et je sais pas, c'est comme si ça fonctionnait pas comme ça, tu vois. C'est comme si, je sais pas, tu fais un concert de soutien et t'as une bête d'artiste qui t'envoie un truc qui dit « Moi, je veux jouer, mais je viens pour 4000 balles. » Tu te dis « Mais en fait, je sais pas comment dire, on n'a même pas envie de te cracher, juste on fait pas comme ça, tu vois. On va pas donner 4000 balles. » Même si je comprends pourquoi, toi, quand t'es artiste pas reconnu ou tu fais du... T'as besoin de tes 4000 balles, ok, mais tu sais, à cet endroit-là, ça marche pas. Viens, on négocie, on te met bien, on t'invite, on te donne à manger, on fait à manger tous ensemble et tu peux faire une bête de concert et l'argent, il est redonné et tout, tu vois. Mais là, ça serait un équivalent de ça, de... Si ce bouquin, il existe, c'est parce qu'il y a tout ça derrière. Et autant avec des personnes mortes qu'avec des gens qu'on a appris à connaître ou des gens qu'on croise dans des milieux ou des traducteurs, traductrices où on sait qu'on se capte sur ce truc. Mais en fait, ces bouquins-là, il faut qu'ils existent dans les deux langues, dans les trois langues. Parce que s'ils n'existent pas dans les langues d'origine et qu'elles ne sont pas transmises, on sera encore à la bourre de cette vieille mondialisation pourrie là et on va courir derrière alors que, de façon populaire, on devrait avoir de l'avance sur cette mondialisation capitaliste. Et du coup, les notes d'éditeurs, ça pourrait être bien dans les Rimbaud, mais on... Attends, on va trouver un bout. Tu veux la pause ? Du coup, c'est une note d'éditeur des éditeurs du dernier cycle d'écriture contemporaine. Et c'est un bout de la note qui dit « Le cycle d'écriture contemporaine number one, qui se termine sur ce livre, est un cycle d'amour politique, de tendresse radicale qui réunit des voix qui ne devaient jamais prendre la parole, qui jamais ne devaient écrire des livres comme ça, et presque encore moins se rencontrer pour se présenter au reste du monde. Nous l'avons déjà dit et écrit, à Terrasse, nous voulons construire des futurs, et pour cela, nous devons nous écouter, donner la parole à tous et toutes, écrire la fondation de nos futures familles, recomposer toujours, hétéronormative jamais. » Et si nous utilisons le mot famille, c'est en conscience de sa nécessaire perversion.
C'est en conscience de sa nécessaire perversion. Nous voulons construire des familles qui ne seront que le résultat des alliances insolites, espace pour se guérir, pour penser en dehors des cadres qui nous semblaient indépassables. Nous avons besoin de fenêtres, d'horizons. Si à Terrasse, nous faisons un travail de réactualisation de la poésie, de sa place, de son impact, nous voulons aussi proposer une réactualisation de la traîtrise à l'ordre bourgeois, de ceux et celles qui tentent de l'actualiser aujourd'hui. Nous voulons donner à lire et à voir les possibilités du changement social, celui qui politiquement s'attelle à défétigiser la littérature, autant que le capital. On parle souvent de lutte, de résistance, de corps en guerre, de désir de justice. Mais la question que nous voulons nous poser, en cheminant dans l'édition et dans nos pratiques, est celle-ci. Qu'est-ce qui porte ce désir de changement? On pourrait facilement prendre le chemin de la colère, parce qu'il est plus facile de penser que c'est bien la colère qui est vecteur de toute notre énergie. Pourtant, ici, nous dirons, ce n'est pas la colère qui porte nos désirs de justice, mais l'amour. Car ce n'est pas la haine pour les bourgeois et les patrons et les colonels et keufs et les ministres, même si elle existe, euphémisme, et avouons-le, est très présente dans nos vies. Mais c'est bien l'amour pour la daronne qui donne ce qu'elle a à ses fils, pour ce vieil homo à qui plus personne ne veut parler, l'amour pour celui qui récupère dans les poubelles, l'amour pour l'émeutière ou la travailleuse sociale des quartiers populaires, l'amour pour de jeunes garçons broyés dès le plus jeune âge car obligés de se débattre dans les injonctions à la masculinité virile qui donne la force de penser qu'on peut faire autrement et que les ornières fabriquées par le monde capitaliste, patriarcal et son cortège de relations de domination ne sont pas inéluctables.
Comme la poésie de El Juniper, ça c'est un bouquin qui a été fait aussi avant, qui se veut une poésie d'action d'appel à, la littérature de El Bertrand est une tentative à première vue nostalgique de se souvenir d'un temps où les militants allaient travailler dans les usines pour aider leurs frères et lutter avec eux, d'un temps où quelques jeunesses quittaient le puissant Occident pour aller vivre avec leurs frères du Vietnam, de l'Algérie ou de l'Albanie.
L'époque où nous quittions par centaines le centre impérialiste pour rejoindre les guérillas et les territoires libérés. L'époque où la lutte anti-impérialiste se pensait partout. Aujourd'hui, on nous a trop répété que ces temps-là étaient révolus, has-been, utopistes. Eh bien, à Terrasse, nous nous dirons désormais punk et has-been.
Nous revendiquons la mémoire de ces temps d'espoir, ces temps de célébration de déclassement volontaire, de lutte armée, de rejet sans aménagement de la bourgeoisie et de ses modes de vie. C'est un exemple, mais c'est, voilà, c'est vraiment les notes d'éditeur en mode bas. Allons-y, quoi.
Publié en juin 2022, à la suite de leur programme, un texte sur le choix du placard brûle d'enlever la mixité choisie systématique. On va vous lire des extraits, et pour le reste, on vous laisse aller voir sur la toile, sur yata.info, leur beau programme de juin et la suite de ce qu'ils expliquent de ce texte.
Depuis qu'on a repris le placard brûle en janvier 2021, toutes les permanences et discussions sont en mixité choisie sans mexis hétéro. À partir de juin, on a envie que ça change. On a décidé d'enlever la mixité choisie systématique du placard brûle. Déjà, on veut réappuyer le fait que le placard brûle porte une position d'autodétermination et se veut un lieu ouvert et invitant pour les personnes qui sont en questionnement sur des orientations asexuelles et de genre et ou qui n'auraient pas les attributs qui font bien pour se sentir légitimé à quitter, explorer autre chose que ce que la norme nous impose. On veut exploser le patriarcat et ses prisons, pas les reproduire. Toute déviance et informité, bienvenue.
Ces comportements qui nous saoulent, c'est par exemple prendre plein de place dans des discussions, parler plus fort, plus longtemps, couper la parole, être hyper affirmatif, affirmative, et regarder de haut celles et ceux qui ne pensent pas pareil. Ne pas être attentif, attentive aux autres, autour. Prendre une position d'expert quand il s'agit de théorie politique, mais ne jamais se mettre en jeu émotionnellement.
On a envie de garder une attention à permettre des modes de discussion qui nous parlent. Laisser la place à chacun chacune de s'exprimer, tâtonner, chercher, questionner, critiquer, sans spécialiste ni oratrice. Construire ensemble nos avis critiques et faire en sorte qu'il n'y ait pas de chef, ni de meneur, ni de meneuse de discussion, mais plutôt un cadre où chacun chacune peut orienter le débat vers une direction qui semble collectivement pertinente.
Vous pouvez lire la suite sur yata.info.
Si on se rencontre là avec ces auteurs autrices là, c'est parce qu'il y a ça. Il y a vraiment cette volonté là de faire communion, tu vois. Si c'est plus que faire communion, c'est de... Je sais pas, de revendiquer une place, de... En fait, on a besoin, pour nous organiser, d'espaces qui, avant, existaient de rencontres intellectuelles. Et qui ne soient pas des micro-mondes ou des entre-soins. Qui soient des espaces populaires. Et du coup, il faut recréer ça, parce qu'il n'y a plus ça. Ils ont tout défoncé avec d'hyper-individualisation et de fétichisation de la littérature. Du coup, en fait, tu rencontres, tu vas plus, je sais pas, tu vas très peu dans... Il y a encore des espaces qui veulent se recréer, tu vois. Mais il n'y a pas le truc hyper populaire où c'est autour du livre, du journal, de parler, de rencontrer tel ou tel poète qui est un peu connu, telle ou telle personne qui a la classe. Tiens, vas-y, viens. Et ça fait une émulation comme ça, intellectuelle, mais populaire, tu vois. Et que du coup, le seul... Je sais pas, quand t'aimes lire ou t'aimes les livres, le seul débouché, c'est devenir un auteur connu. Et avoir, un article dans le Libé, quoi. C'est tellement médiocre comparé à tout ce qu'on peut faire collectivement et qui existe collectivement. Tiens, ça existe, toutes les brochures. Pète sa mère, il y en a plein. Il y en a plein, mais tu vois comment on recrée des espaces physiques qui vont avec. Et s'il n'y a pas de livre pour porter ça, il n'y a pas. Quand tu fais des bouquins, le truc qui est hyper bien, c'est qu'en fait, toutes les librairies, tu peux aller, elles t'invitent. Tu fais une discussion. En fait, si tu fais une discussion où... L'auteur, il n'est pas sur l'estrade, mais tu dis, vas-y, venez, on parle, on fait exactement ce que tu dis là. Nous, on essaie de se mettre à nu le plus possible en disant, faire un livre, c'est ça, et allez. Et je sais pas, ça recrée ce truc-là. Et s'il n'y a pas le livre, c'est hyper dur de faire ça. Tu peux présenter un bouquin dans un cinéma avec 150 personnes. Bon, l'auteur de Fatou, est-ce qu'il peut, tu vois, montrer que, bah ouais, en fait, moi, je suis là, j'ai un cambou et quoi. Ça me fait pas quelqu'un mieux que vous, mais en fait, j'ai un cambou, donc arrêtez de fantasmer sur ce... Il est là, tu vois. Et ça va. J'ai pas les chevilles qui enflent et j'ai pas ça, mais il est là. Du coup, venez, si on voulait en parler, on en parle. Lisez-le et tout. Distribuez-le, invitez-nous. Invitez-moi là. Vas-y, mais on met un level en plus. Mmh. On peut se le permettre. Et aussi pas abandonner ce truc de... Vas-y, merde, on est construit par les bouquins aussi, tu vois. Faut pas se mentir. Pourquoi l'abandonner à une ou deux maisons un peu classe politiquement, ou pourquoi? On est plein à écrire et à avoir ce savoir-faire là, tu vois.
Toi, tu te souviens d'un bouquin, un des bouquins qui t'a marqué, peut-être plus jeune, ou en tout cas, qui t'a marqué dans ta vie politique peut-être, ou qui t'a, tu vois.
Ouais, je pense qu'il y en a plein.
Oui, il y en a
plein. Non, mais il y en a plein, mais par exemple, il y en a un, et qui vient d'un truc comme ça. Qui vient de recueils d'écrits, et c'était déjà ça à l'époque, autour des frères de Soledad et autour de George Jackson aux États-Unis. C'est des bouquins qui datent des années 70. Ceci, tout cela, un bouquin, ça a une durée de vie beaucoup plus longue que tout plein de trucs qu'on a. Le bouquin, il se retrouve dans une étagère, dans une malle, il se passe. Et du coup, tu vois, ce bouquin-là qui date des années 70, ok, ça a été fait par le Seuil à l'époque, mais. Non, c'est Gallimard témoin, là. Et les traductions, elles étaient pourries et tout. Mais juste à l'époque, c'était une espèce de... Sur le moment de la lutte, et sur le moment de l'assassinat de George Jackson et tout ce que ça portait, de dire... une compilation d'écrits, tu vois, sur le tas. Du coup, c'est sûr que ça fait pas un livre chiadé de littérature, on s'en fout. Mais juste, t'as ça, t'as... je sais pas combien de pages où t'as dit la poésie qui cohabite avec des textes politiques, des tracts, des écrits de prison, des lettres de soutien de gens que tu connais avant, que tu connais rien, tu sais même pas qui c'est. En fait, tu te rends compte que c'est des gens qui tuent, tu vois. Enfin, qui sont trop contre la classe et qui signaient à l'époque ces trucs-là. Et ça, par exemple, tu vois, c'est aussi ça donne à voir comment un bouquin, un objet livre, il porte un temps de rencontre politique hyper. En tout cas, presque pas vrai comme la vraie vie, mais qui, le plus vrai possible. Parce qu'on a besoin, en fait. On a besoin de ces plein de références qui sont presque inexistantes. En quimbou, en passation de pouvoir. Il y a des temps politiques en France, en Europe, on nous a coupé de ça. C'est le truc has-been dont on parle, c'est qu'en fait, on a coupé le cordon ombilical de gens qui sont la génération ou deux générations au-dessus de nous, qui ont fait des trucs de ouf. En tout cas, qui ont fait des trucs parce qu'ils étaient dans le même rapport d'eux. En fait, c'est pas possible de laisser la vie couler comme ça, il faut qu'on fasse des trucs. Ils ont fait des trucs. Et juste, on nous a coupé le cordon. Genre, nous, on est nés, les années 80, 90, tout va bien, il y a quoi? Il y a la victoire des Bleus et de l'équipe de France et quoi? Alors qu'il y a une histoire politique et une historicité de tout qui est hyper importante. Et on a peu de choses. Ou en tout cas, il faut creuser. Tu vois, on arrive, on va avoir 30, 35, 40 ans. On aura creusé pendant 15 ans, alors qu'en fait, tu lis deux bouquins, il y a tout. Même les darons, les vieux, ils sont encore un peu vivants. Ils attendent que ça. Quand ils ne sont pas morts ou du sida, ou morts en prison, ou morts sous les balles de la police, tu vois. En fait, il y a trop de trucs qu'on a besoin de ça. Mais voilà. On est plein et on peut avoir une petite place dans ce monde du livre. Vas-y, prenons-la. Parce que ça dure, même si ça s'arrête demain. En fait, il y a 10, 11 livres qui ont été imprimés à 1000 exemplaires. Qui peuvent être dans un CDI, dans une école de quartier, dans un truc, comment ça s'appelle, là, les bibliothèques de bus, là, chez quelqu'un, et ils seront là, ils tournent. Oui. Allons-y, tu vois. Mais on peut le faire de façon à créer une autre arme collective. Et il y en a plein d'autres. Et là, c'est celle du moment, et s'il faut passer à des armes un peu plus puissantes à un moment, ben allons-y, tu vois. On sera prêts aussi. Ou si cette arme-là, elle devient chiante et qu'on s'enferme dedans et que, bah, vas-y, on la squeeze et on en trouvera d'autres,
tu vois. T'as envie de rajouter quelque chose, un truc qu'on n'a pas dit, un truc que t'as envie de dire, un truc que tu dis soit, quoi.
Non, mais ça serait à partir sur tout un autre sujet et machin, mais genre le rapport à qui est publié, qui traduit. Et là, vu qu'on est en train de rechercher des nouveaux livres, donc on sollicite des maisons d'édition pour savoir si elles peuvent nous donner des livres et tout. Et donc, on a sollicité plein de maisons d'édition comme Syleps, Agone, Entremonde, Divergence, plusieurs, dont L'Armaton, La Découverte, Zulma, etc. Et un des trucs qu'on s'est rendu compte, c'est que pour certaines maisons d'édition, quand on leur dit on priorise les écrits de personnes qui sont pas des mecs 6-7, eh ben, il y a très peu de choix. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont publiées sont principalement des mecs 6. Et les personnes qui traduisent aussi les écrits qui viennent des États-Unis ou de l'Angleterre ou je sais pas quoi, pareil, même si c'est écrit par des meufs ou des meufs non blanches, c'est traduit par des mecs, quoi, très fréquemment. Moi, ça me casse la tête. C'est à nouveau, en fait, genre, dans ce truc-là. Du coup, on est obligé de se retrouver à, genre, avoir principalement des écrits qui sont écrits par des mecs 6-7, quand, en fait, on est une bibliothèque féministe, antiraciste, anti-autoritaire. Enfin, voilà, on se retrouve quand même à... Voilà. Mais ça vient plus loin. C'est genre, qui a les relations? Qui a la possibilité d'aller jusqu'au point d'aller en thèse ou je sais pas quoi et donc de pouvoir publier sa thèse etc. sur un sujet particulier, d'avoir le temps de faire de la recherche sur des sujets en particulier. Et même si t'écris des romans, il faut que t'aies les contacts et tout pour pouvoir être publié, parce que sinon ça marche pas. Et voilà, donc il y a encore du taf, quoi.
Bon, on est tellement nourris d'avoir fait toutes ces émissions-là. En vrai, on remercie très très fort toutes les personnes qui nous ont confié leurs paroles. Et bon, et ben, en fait, on veut plus s'arrêter. On veut suivre la chaîne artisanale du livre. Alors, à la rentrée, on vous parlera des auteurs, des autrices. Et on ne sait pas combien d'émissions ça sera, mais nous, ça va nous faire plein de beaux rendez-vous à venir. Là, il y aura 2 émissions qui se préparent encore en juin, peut-être un petit bout de juillet. Donc, vous pourrez nous écouter encore avant l'été et encore et encore et encore et encore.
Bisous.
Salut.
Fragments aux éditions Terrasse, édité en septembre 2021. Introduction, page 21. Pourquoi écrire ? À cette question, une multitude de doutes, de réponses et de pistes. Une seule certitude en revanche. Si je n'avais pas fait de l'écriture un pilier de ma vie, de mon intime, le fil conducteur d'un chemin cabossé, je serais morte. Je n'imagine pas par quel autre moyen il serait possible d'incarner mon corps, mes rêves, mes utopies, mon cheminement. Écrire, 2 points. Un outil pour créer et raconter. Autrement dit, l'écriture me permet de tenir debout. Elle me permet de tisser des souvenirs, mais aussi de marquer des cicatrices sur lesquelles je peux revenir et regarder avec du recul. Elle est non négociable. Elle sert à éponger les peines, organiser la colère, structurer des idées, dire, nommer, dénoncer. Elle me sert à crier, à pister les vulnérabilités dont on n'a pas idée pour m'éviter de les exposer et d'attirer une empathie déplacée ou dégoulinante. L'écriture est d'abord un exercice rigoureux entre moi et moi, entre soi et soi. Écrire permet cette chose difficilement descriptible, la conscientisation du soi. À une période de ma vie, elle fut la seule échappatoire. Elle joue encore ce grand rôle aujourd'hui. Parfois, quand mon corps s'immobilise et quand les émotions se figent, il me reste le carnet, le stylo ou le clavier. D'ailleurs, à 9 ans, pendant une énième crise de polyarthrite, ma grand-mère m'offrait un carnet et un joli stylo en me disant « Fais-en ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde, mais tu n'es pas obligé de te taire non plus. Alors tu pourrais écrire pour ne pas tout garder à l'intérieur. » En me remémorant ce souvenir, me vient aussi le fait que certains adultes ont toujours écrit autour de moi. Je ne parle pas de ce qu'on fait quand il y a une contrainte scolaire ou administrative. À 10 ans, je remplissais les formulaires de la préfecture pour les demandes de titre de séjour, les formulaires pour la sécurité sociale, etc., etc. Non, je ne parle pas de ces espaces où l'écriture est pénible, fastidieuse. Il me faut aborder le fait que ma grand-mère adoptive française écrivait des lettres, des mots traînant sur la table, des cartes postales, des mots d'amour et d'espoir. Mon père, lui, dans sa pratique de marabout, écrivait des lignes et des lignes pour fabriquer des objets protecteurs, en arabe littéraire. À l'écriture qui prenait donc de la place de différentes manières, s'ajoute l'oralité. Ce souvenir de cette pratique dans les années 90 où on envoyait des cassettes enregistrées à la famille au Mali pour qu'ils et elles puissent nous entendre. Même s'ils ne lisaient pas tous et toutes, c'est le dire qui compte et le comment aussi. Mon incapacité à improviser me vient peut-être du fait que tout s'écrit. Les ordres du jour de réunion, les prépas d'anime, les cartes postales sonores, les chroniques pour la radio, la liste de courses, la to-do list, les petits détails et les grands moments. J'ai vu ma mère faire pendant des années, elle qui n'écrivait pas et ne lisait pas non plus. Tout s'écrivait néanmoins dans sa tête et se fixait au fur et à mesure, comme une performance créée sur du long terme à l'échelle d'une vie. Avoir une vision précise qui apparaît au fur et à mesure, en fonction de l'environnement, des états émotionnels et surtout en fonction d'une boussole intérieure maîtrisée par sa seule personne. Une vraie chef d'orchestre, sans jamais avoir un stylo ou un crayon à la main. Dans ma vie, encore aujourd'hui coexiste le journal intime comme brouillon permanent, trace du quotidien et des écrits travaillés pour les rendre lisibles et audibles. Écrire sera toujours un espace de liberté et de transformation. C'est un voyage entre les formes et le fond, entre le poétique et le récit, entre la fiction et le réel vénère, entre la rage et la douceur. C'est un espace malléable à merci. Il ne s'agit pas d'une fin en soi, jamais, plutôt de point de départ. Point de départ eux-mêmes marqués par des rencontres, des expériences, des tentatives, du quotidien, des colères, des joies, des tristesses et la rage. Cet ouvrage est un extrait des possibles, une proposition, une invitation acceptée. Ce sont des textes qui se lisent avec les yeux et s'entendent à l'oreille, parce que c'est un couple indissociable, l'écriture et l'oralité. C'est, dans ce moule, qu'est née une pratique qui ne se tarit jamais. Le rendez-vous des possibles en tant que meuf, noire, issue de quartiers populaires. Je ne suis pas écrivaine, je ne suis pas poète. J'écris, je fais, je survis et je vis.
Fatou S. Fragment.